Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RDIWA sur le 107.5 FM et Radio Saint-Ferréol sur le 94.2. Le programme Biotope du jour va s'intéresser à l'habitat, aux nouvelles formes d'habitat. Et je suis en compagnie de Jean-François Battaglia, bonjour.
Bonjour.
Accompagné également de Alexandre Rebourg, bonjour également.
Bonjour.
Et tous les trois, on va évoquer justement cette nouvelle manière de construire des maisons, et plus particulièrement les maisons ossature bois et structure paille, puisque c'est vos spécialités à l'un comme à l'autre. Est-ce que vous voulez d'abord vous présenter ?
Je m'appelle Jean-François Battaglia, donc je suis constructeur de maisons ossature bois et paille, isolée en bottes de paille. Voilà, ça fait maintenant 6 ans que je suis dans le DIY. On va dire 4 ans que je suis dans ce domaine-là.
Et tu es auto-entrepreneur ?
Auto-entrepreneur, c'est ça.
Alexandre ?
Eh ben moi, ça fait 10 ans que je suis dans le DIY. Ça fait... J'ai commencé par construire des murs d'escalade un peu dans toute la France pour une entreprise. Et puis après, j'ai eu envie de construire des maisons écologiques. Et j'ai fait des rencontres dans le DIY qui, petit à petit, j'ai construit une maison, une deuxième. J'ai rencontré Jean-François et puis on en a construit d'autres ensemble. Et voilà. Donc surtout des maisons ossature bois et avec une isolation paille. Et puis des fois aussi des maisons en murs, briques monomures, ou ce genre de différentes choses, mais essentiellement de l'ossature bois et paille. Voilà. C'est là-dedans que je travaille le plus.
Tu as parlé un peu de ce désir de construire des maisons. Jean-François, on ne l'a pas entendu vraiment. Je voudrais qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait envie de construire des maisons en paille plutôt que de la maison en béton, ou en briques, ou de manière traditionnelle. Est-ce que déjà vous étiez dans la construction ?
Moi, j'ai un parcours, en fait, où j'étais... Il y a quelques années, je ne savais même pas tenir une visseuse. Et puis, après un long voyage autour de l'Europe, où j'ai vu pas mal de choses, on s'est installé ici dans le DIY, et j'ai eu besoin de travailler. Et du coup, j'ai appelé des copains pour construire des murs d'escalade, je savais qu'il y avait une piste, et puis petit à petit, ça, j'ai eu envie d'aller plus dans le bâtiment, dans la maison. Bon, dans le DIY, j'ai rencontré Jean-Laurent Marzoulot, qui m'a dit, viens à la maison, viens m'aider à construire ma maison, et j'y suis allé. Et c'est cette envie de construire des maisons, mais à la médiathèque, j'ai découvert la revue qui s'appelle La Maison Écologique, hein, auquel je me suis abonné. Et puis j'ai découvert un livre qui s'appelait Construire aujourd'hui en paille. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis j'ai trouvé ce matériau, bien sûr, ils en faisaient la propagande, mais j'ai trouvé que ce matériau avait l'air carrément exceptionnel pour construire. Il avait toutes les qualités, quasiment aucun défaut. Donc ça me branchait bien, quoi.
Et toi, Jean-François ?
Tout d'abord, le fait de travailler le bois, ça vient de mon père. J'ai fait beaucoup de bricolage donc, quand j'étais petit, dans le garage familial. Mon père est retraité, prof de techno. Et il avait un vieux kitty dans le garage. On s'amusait à fabriquer des meubles. Voilà, ça m'a donné le goût à la chose. Et puis ensuite... j'ai retapé une vieille ferme sur le plateau du Vercors. Pas vraiment sur le plateau, mais dans les gorges de la Bourne. Et j'ai créé un gîte. Là, j'étais pas du tout dans la démarche de maison écologique. C'était en 98. Suite à ça, je suis parti 4 ans en Martinique. Et puis quand on est revenu en France, s'installer dans le DIY, là, c'était en plein boom. La maison écolo, ici, ça tombait sous le sens, quoi. C'est la logique même de construire... Pour moi, c'était à la fois en bois et puis vu ce qui nous entoure, utiliser la botte de paille pour l'isolation.
C'est surfer sur quelque chose qui est moderne, qui est justement un peu tendance ou...
C'est de plus en plus, on va dire, tendance, mais bon, ça commence à dater. Quoi, là.
Parce que je veux dire, l'un comme l'autre, on entend aussi que vous aviez besoin de travailler, besoin d'en vivre, pour qu'on essaie de faire un distinguo entre une nécessité de faire de l'argent, ou alors est-ce que c'est vraiment un désir écologique ? Est-ce que c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi ?
Bah moi, j'ai toujours travaillé dans l'environnement. J'ai travaillé pour des réserves naturelles. J'ai été photographe, conférencier pour des réserves naturelles. J'ai participé à la réintroduction de JPL Barbu. Et donc, j'ai toujours été un peu dans cette mouvance-là de protection de la nature, écologie. J'ai une vie très liée à l'écologie. L'idée de pouvoir construire une maison de manière écologique, une maison qui soit qu'avec des matériaux naturels et qui puisse être biodégradable, c'est ça que j'ai trouvé. Parce qu'après un an de voyage dans l'Europe, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses, et entre des maisons en bois, des maisons en briques, des maisons en parpaing, des maisons, et ça m'a vraiment questionné. Après avoir travaillé sur des chantiers de murs d'escalade où il y a aucune, on ne s'inquiète pas du tout de l'écologie, j'en ai eu un petit peu marre. Là, je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de construire une maison, de mettre des gens sous un toit, et puis une maison qui serait écologique, qui ne pollue pas pour la construction, qui permet de vivre dans un habitat sain. Et puis, ben, en cas de démolition aussi, on peut se dire que c'est des matériaux, notamment la paille, qui est complètement biodégradable, quoi. Je veux dire, ça laisse pas de traces, quoi.
C'est biodégradable, mais c'est solide, hein.
Ah oui, c'est une maison solide. La plus vieille maison d'Europe et peut-être au niveau du monde, qui est construite en paille, en bottes de paille, elle date de 1921.
Ouais.
C'est dans le nord de la France, je crois. Et elle est en vente, alors, en ce moment-là.
L'ingénieur Feuillette, je crois, ouais, qui l'a construite.
Elle est nickel, elle est super belle. Il n'y a pas de bottes de paille à changer, il n'y a pas... Voilà, il y a des procédés qui sont aujourd'hui connus, qui marchent très très bien, c'est des maisons solides. Si on fait une ossature, il y a plusieurs types d'ossatures, mais on s'en revient au même. Quand c'est bien fait, avec du bois qui va bien, du Douglas notamment, que la paille est bien protégée, parce que si on laisse la paille au cas de vent, bah, elle va prendre la pluie, elle va prendre l'humidité, mais une fois qu'elle est enfermée, soit dans un enduit ou dans derrière un bardage, il y a pas de souci, c'est un matériau qui dure super longtemps. La maison Feuillette, elle a bientôt 100 ans, et elle tient certainement mieux la route que la plupart des maisons de ce âge-là, et en plus elle est très bien isolée, parce que la paille, pour qu'on construise avec de la paille, c'est pour l'isolation, quoi. C'est une isolation, on a 36 cm d'isolation en paille. C'est assez redoutable pour retenir la chaleur ou empêcher la chaleur de rentrer en été et l'empêcher de sortir en hiver, quoi. C'est...
Par rapport à de la pierre, par exemple.
De la pierre, c'est un matériau qui est hyper dur, qui n'a pas d'air. Parce que ce qui isole, c'est l'air. Si on n'a pas d'air... Donc dans la paille, c'est un matériau creux. Donc il y a plein de bulles d'air dedans. Et dans la pierre, il n'y a pas d'air. Donc il n'y a pas d'isolation. Par contre, ça permet, avec des murs très épais en pierre, on arrive à garder une certaine inertie. La paille n'a pas d'inertie. On ne peut pas garder de la chaleur très longtemps. Elle ne va pas stocker de la chaleur, mais dans ses murs. Elle va rester neutre, tandis que le mur en pierre, il va jouer autrement.
C'est un peu le problème des maisons en ossature bois, le problème de l'inertie. On apporte un peu d'inertie, pour ma part, pour ce que je fais, grâce à la dalle. Grâce aux cloisons intérieures qui sont en fermacelle, c'est un matériau très lourd, formé de gypse et de cellulose.
Et les enduits sont
et beaucoup avec les enduits qui sont sur les bottes de paille.
Alors là, on a commencé à dire le défaut d'entrée de jeu de la maison en paille, donc c'est qu'elle n'a pas d'inertie.
Ça peut être un défaut et une qualité. Par exemple, quand on quitte sa maison, si on part en vacances, en hiver, on revient, la maison, elle est... Déjà, elle n'est pas froide. Hein. Moi, j'habite dans une maison en paille comme Jeff. On n'a pas besoin de mettre notre maison...
Il faut dire qu'on se trouve actuellement dans une maison.
Tout à fait.
Notre maison, on revient dans notre maison, il ne gèle pas dedans. Hein. Il fait 10 degrés, surtout si elle est conçue d'une manière un peu bioclimatique, elle prend le soleil. On fait une petite flambée, il fait tout de suite chaud. Parce qu'elle n'a pas besoin d'aller chauffer les murs. Elle a tout de suite, poum, la chaleur est retenue. Et il fait en une demi-heure, il fait une chaleur comme si on y était depuis une semaine ou un mois. Alors qu'une maison en pierre, il va falloir des fois plusieurs jours pour arriver à chauffer la maison, parce qu'il y a les murs qui apportent du froid et il va falloir chauffer les murs aussi. Là, on n'a pas besoin de chauffer les murs.
Je voulais qu'on ait un petit peu le détail sur la manière dont vous fabriquez ces maisons précisément. Qu'est-ce que vous proposez ?
À l'origine, il y a un gros travail pour voir avec le client ce qu'il désire vraiment. comment il vit, l'agence pend des pièces.
Tu veux dire, c'est pas le rapport froid avec l'architecte qui envoie les plans?
Non, c'est pas du tout froid, c'est très chaleureux comme contact. Donc il y a un gros travail en amont, et puis sur le terrain également, voir comment on peut exposer la maison, comment on peut la tourner, budgétiser tout ça, déposer un permis. Donc ça, c'est un long travail au préalable qui doit être fait, sans oublier les banques. Ensuite, un gros travail de devis, qu'on peut faire,
oui,
demander
toi, tu...
de devis. Donc on travaille beaucoup avec notre cher Quintessence.
Ouais, Quintessence, qui ont des produits écologiques, qui sont à heure exactement. Voilà.
Et ils sont super.
Ouais, non, mais voilà, donc c'est intéressant de travailler avec eux, c'est sûr. Et puis, voilà. Après, ça passe à la phase de la construction.
Donc, ce qui est important, c'est bien d'élaborer un planning du chantier. La pose des bottes de paille, de l'enduit, ça ne s'improvise pas. Il faut voir par rapport à la saison.
Il ne faut pas qu'il fasse froid, il ne faut pas qu'il fasse chaud.
Donc, on la construit quand, la maison de paille, en fait?
Non, mais après, on peut construire l'ossature en hiver, en été, mais c'est vrai que si on veut que ça s'enchaîne bien, il faut démarrer au bon moment. Et nous, avec Jeff, on ne prend pas plusieurs chantiers à la fois quand on prend une maison de A à Z. Bon, on travaille que sur ce chantier, donc on y est tous les jours, et donc il faut que ça s'enchaîne pour ne pas avoir de période de creux et qu'on puisse tout faire. Puis ben voilà, il faut planifier. Après, les enduits, ça peut se faire à des moments. On peut dire que c'est ben voilà, faudra attendre le printemps. Donc en attendant, on fait autre chose et voilà. Mais voilà, il faut. Donc Jeff, c'est bien son boulot, ça. Il planifie bien les choses, il budgétise très bien. Moi, je suis nul pour ce genre de trucs.
Il dessine les plans.
Voilà, il fait tout bien à l'informatique. On a des plans très précis, au millimètre près. Voilà, donc tout ça, c'est
très
bien.
Quand j'arrive sur le chantier, j'aime bien que tout soit nickel.
Oui, l'approvisionnement, c'est super important parce que si sur un chantier, on est mal approvisionné. Ben, nous, on ne peut pas bosser. Et puis, du coup, il faut courir à droite, à gauche. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un super approvisionnement, d'avoir un super travail en amont pour que le chantier soit bien préparé sans se poser de questions d'approvisionnement.
Alors, cette émission veut mettre en avant surtout la dimension écologique et locale. Et là, en l'occurrence, vous avez commencé à citer Quintessence, donc à heure, c'est très bien. Le Douglas, j'imagine, qui vient d'ici. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu?
Non, Douglas, il n'y en a pas ici.
Donc, vous n'utilisez pas le pain du Diwa?
Non. Le Douglas, c'est vraiment un super matériau.
Et le pain noir, bon, je ne le connais pas bien, mais c'est pas vraiment un matériau qui... L'avantage du Douglas, c'est qu'il est... les insectes, les parasites ne se mettent pas dedans. On a un bois qui est vraiment bien pour la construction à ce niveau. On est assez serein, on n'a pas besoin de le traiter. On le laisse brut, quoi, pour l'ossature. Alors que la plupart des autres bois, on est amené à faire des traitements un peu lourds. Et alors qu'avec le Douglas, on peut monter... toute l'ossature, la charpente, sans avoir besoin de faire traitement, et on est tranquille.
Et il vient d'où alors ce Douglas?
Bah plutôt du Beaujolais, du Morvan, massif central.
Donc
ça va, c'est pas trop loin.
Oui, ça va, c'est pas très loin. C'est pas très loin, et on économise donc sur le traitement, voilà. Écologiquement et financièrement. Voilà.
Et c'est un bois qui est très travaillé dans les scieries du coin. On en trouve énormément chez Georgis, par exemple. Il travaille le Douglas, et chez Maïfo aussi, il travaille ses bois, donc c'est vraiment un bois qu'on trouve ici, qui permet aussi de faire travailler les scieries du coin. On peut vraiment avoir un approvisionnement local. Enfin, on fait travailler vraiment des filières assez courtes. Ce que j'aime dans les maisons qu'on fabrique, c'est qu'on essaie d'utiliser les filières les plus courtes possibles. Donc la paille, il peut pas y avoir de filière plus courte que celle-là, quoi. On va voir l'agriculteur qui est son voisin, qui fait de la paille, même si c'est pas de la paille bio, c'est pas forcément très grave. Et on peut lui acheter de la paille. Alors il faut la commander avant. Là aussi, c'est travailler en amont. Il faut avant le chantier, il faut commencer par voir chez quel agriculteur on va pouvoir acheter de la paille, s'il va en avoir.
C'est-à-dire que sur le lieu de la maison, là où elle va être construite, vous cherchez l'agriculteur
proche. Oui, autour, puis on a un réseau, on en a quelques-uns autour de nous. Donc, c'est parce que si elle vient de très loin, il faut l'amener en camion.
L'idéal, c'est que l'agriculteur livre la paille avec son tracteur.
Donc ça, il faut aussi un travail en amont pour voir avec l'agriculteur. Donc avant qu'il ait semé, on saura qu'on va lui acheter sa paille, parce qu'il faut que les bottes de paille aussi, elles soient pressées à une certaine densité pour pouvoir servir à la construction de maisons en paille. Si elles sont, souvent, elles sont les bottes de paille classiques, enfin comme ça, elles ne sont pas assez pressées. Nous, on demande à ce qu'ils mettent la machine quasiment à fond, pour qu'elle soit bien dense, bien de... On peut pas aller juste voir un agriculteur, lui dire, moi, je vous achète votre paille qui est dans le hangar. Non, ça marche pas comme ça.
Déjà, avec l'agriculteur, c'est bien de définir quelle dimension de bottes on veut par rapport à notre ossature. Et puis, c'est appréciable d'accompagner l'agriculteur dans le champ lorsqu'il botte, bien contrôler justement la tension des ficelles et puis voir s'il n'y a pas un orage qui va éclater. Et là, il faut surtout pas, quoi, parce qu'il ne faut pas dépasser 20% d'humidité pour les bottes de paille. Il y a des moisissures qui peuvent apparaître. Bien contrôler ensuite, avant la mise en œuvre, le poids des bottes par rapport aux dimensions de la botte. Il existe des abacs qui directement on voit le taux d'humidité de la botte. Il faut faire attention à ça.
Soyons très concrets.
Il y a plusieurs techniques et il y a deux grandes écoles. C'est la maison avec ossature bois et remplissage en bottes. Donc là, il y a la méthode caisson, il y a la méthode grève, il y a différentes méthodes. Et il y a une autre méthode qu'on appelle plus Nebraska, qui est la paille qui fait des murs porteurs.
La paille est porteuse.
Voilà, ou la paille est porteuse. Ça, c'est une technique qui n'est pas très développée en France, parce qu'en Angleterre, aux États-Unis, ils l'utilisent pas mal. Nous, on a peu de gens qui travaillent avec cette méthode, donc moi, je ne la connais pas. Déjà, je ne peux pas beaucoup en parler, et donc il y a une maîtrise qui n'est pas très développée en France. Donc, on parle surtout de maisons à ossature bois en France avec un remplissage. Donc les bottes, elles vont surtout servir pour l'isolation et non pas pour la structure de la maison finalement.
Donc on fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on fait une dalle sur laquelle on a ses fondations et puis on érige des murs dans lesquels on va...
fabrique des caissons, on travaille beaucoup avec des sections de 200 par 50. Donc on construit des caissons et puis on rentre les bottes en force. On peut sangler les bottes et puis après enlever les sangles, donc là elles se décompressent. Le but du jeu, c'est de rentrer les bottes minimum en compression dans la structure pour minimiser les ponts thermiques. Parce que qui dit pont thermique dit passage d'air et passage d'humidité, point de rosée éventuel et après éventuellement moisissure, pourrissement de notre paille, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui ont peur que les bêtes s'infiltrent et vivent dans la paille, que ça va moisir, tout ça là. Alors, depuis le début, vous le défendez bien, mais plus précisément, et puis sur l'incendie aussi, toutes ces choses-là. Enfin,
la maison en paille, les trois petits cochons. Et donc déjà par rapport aux bestioles, les souris vont se mettre dedans, c'est une catastrophe. Enfin, bon. Moi, j'ai démonté souvent des isolations donc en laine de verre et tout ça. Il y a un nombre incalculable de crottes de souris, de fouines. Donc la laine de verre ne nous a jamais protégés
des bêtes.
Des bêtes. Les murs en pierre, peut-être un peu plus, mais bon, on se caille dans les murs en pierre. Et dans la paille, c'est sûr que si la maison est mal faite, on a un risque d'avoir des souris. Mais normalement, quand on fait des caissons, quand on fait la méthode grève, la paille est enfermée. Il y a plus d'accès. Alors bien sûr, on est un rongeur, peut toujours creuser, il peut toujours avoir un point faible et tout ça. Bon.
On positionne des grilles. Voilà, on positionne des rongeurs.
Moi, dans ma maison, j'ai eu une entrée. J'ai essayé de piéger la souris, j'y suis pas arrivé, puis je l'ai enfermée. Maintenant, j'entends plus.
Mais de toute façon, les bottes de paille sont tellement compressées que non, elles aiment pas ça. Elles aiment la paille qui est en vrac, éventuellement.
Mais elles peuvent quand même, mais le problème, c'est qu'elles, de toute façon, elles n'ont pas trouvé grand-chose à manger. C'est vrai. Donc, si elles se retrouvent enfermées, prisonnières dedans, elles ne pourront pas vivre. Puis, c'est pas vraiment un lieu où elles vont avoir envie, parce que, bon, c'est tassé, c'est, tout est bien fermé. Hein. Y a pas de... Parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser de la paille à l'air libre, comme ça, pour des questions d'humidité, pour les rongeurs, et ça se gère, elles sont obligées de sortir pour aller se nourrir, donc il suffit d'arriver à la piéger, et puis après de boucher le trou, et voilà.
Sinon, concernant le feu, en fait, des tests ont été faits sur les bâtiments en paille, et ça répond aux standards, aux normes.
La paille, comme elle est tassée, ça n'arrive pas à brûler comme ça, il y a un mur construit, au lance-flamme, enfin avec un
chalumeau,
ouais. Là, une fois que l'enduit a brûlé, la paille n'arrive pas vraiment à brûler, elle se consume doucement, mais il ne se passe pas grand-chose. Par contre, la paille en vrac, ça, c'est l'horreur, quoi.
Le plus grand danger au niveau du feu, c'est pendant le chantier. Ouais. Nettoyer le plus régulièrement possible son chantier, qu'il n'y ait pas de paille en vrac au niveau du sol. Informer les gens qui interviennent sur le chantier qu'il ne faut pas fumer. Puis de toute façon, le plus rapidement possible, il faut que la paille ne soit plus apparente pour pas qu'il y ait de risque. Éviter, par exemple, de tronçonner les bottes. Moi, je les tronçonne avec une tronçonneuse non thermique et en plus à l'extérieur, je le fais.
Enfin, le gros risque, c'est la paille en vrac lors du chantier, quoi. Et là, on peut vraiment mettre le feu à la baraque, quoi. Et il y a un feu qui va se déclarer sur cette paille en vrac, et après, un feu qui est bien parti, il brûle n'importe quoi.
L'erreur courante, c'est poser sa tronçonneuse sur la botte de paille pour la pause de midi et revenir, il n'y a plus de maison.
Vous avez déjà entendu parler de ça?
Ouais.
Non, il y a plusieurs maisons qui ont déjà brûlé, mais oui, paille en vrac, ou des grosses erreurs, et le travail est réduit à néant.
Je ne me rappelle plus du terme que tu as employé, bio quelque chose.
Bioclimatique.
Bioclimatique.
La maison bioclimatique, c'est en gros une maison bien orientée, plein sud, avec des baies vitrées plein sud qui vont capter les rayons du soleil, donc pour l'hiver, capter tous les rayons du soleil, du lever du soleil au coucher du soleil. Ce soleil va pénétrer dans la maison sur une dalle, par exemple en béton, qui va bien capter la chaleur, ou sur un carrelage, ou qui va bien capter la chaleur. Et une fois que le soleil est couché, qui va redistribuer cette chaleur dans la maison, et puis même durant la journée, va donc distribuer de la chaleur dans la maison, et éviter les ouvertures au nord. Et à l'est et à l'ouest, parce que après le problème de l'est et de. Alors, on va quand même mettre des fenêtres à l'ouest et à l'est. Après, en été, il ne faut pas que ce soleil vienne chauffer la maison. Alors, le soleil en été, il est beaucoup plus haut. Et en été, on n'a pas envie qu'elle soit réchauffée. Donc, il faut bien gérer ces histoires de fenêtres. Une maison qui est bien orientée, avec le soleil qui vient chauffer la maison naturellement. Et qui voilà et en été bien protégée du soleil pour pas qu'elle chauffe c'est ça une maison bioclimatique. C'est après il y a la maison passive où quand on va un petit peu plus loin c'est une maison qui a quasiment plus besoin de chauffage et quand on a bien orienté sa maison qu'on est dans un endroit bien ensoleillé on a des maisons en paille nos maisons en paille le chauffage c'est plus du tout un budget quoi c'est quand j'entends parler de gens qui mettent plusieurs milliers d'euros dans le chauffage par an, je trouve ça... Aujourd'hui, c'est dépassé, quoi. Moi, je brûle même pas de 2 mètres cubes de bois par an. Jeff, je sais pas combien tu es, toi, dans ta maison, là.
4.
Ouais, parce qu'elle est beaucoup plus grande, la mienne est toute petite. Quand on a 4 mètres cubes, quand on chauffe au bois, le budget du chauffage est réduit.
C'est valable ici dans le Diwa ? Est-ce que c'est pareil au centre ou au nord de la France ?
Au Canada, ils ont des maisons pareilles. Ils arrivent à avoir des maisons passives dans des coins beaucoup plus froids que les nôtres et en été où ça chauffe aussi beaucoup plus. Donc il n'y a pas de raison que dans toute la France ça marche, quoi.
L'idéal, c'est de rajouter une ventilation double flux, éventuellement des triples vitrages. Moi, je dirais le plus gros problème des maisons en paille, c'est qu'une fois qu'on habite dans une maison en paille, on ne peut plus aller dans d'autres maisons. On se sent super bien dans d'autres maisons, et dès qu'on va ailleurs, on a froid, quoi.
Dans une maison en paille, il n'y a pas de mur froid. Il fait chaud partout, il fait une chaleur à peu près régulière partout. Mm. C'est des maisons super confortables, quoi.
En quelques mots, pour parler budget, par exemple, je sais pas, une maison de 100 mètres carrés, combien ça coûte aux personnes?
Jeff,
allez, Jeff.
D'abord, ça dépend ce que veut exactement le propriétaire de la maison.
Quoi,
sans parler du terrain, on tourne aux alentours de 1 000-1 100 euros le mètre carré. Mais ça, c'est tout compris avec toutes les finitions intérieures. Quoi.
Ouais. Et vous deux qui travaillez ?
L'électricité et la main d'œuvre, bien sûr.
Ouais, Il faut aussi tordre le cou à cette idée que beaucoup de personnes pensent que on va construire une maison en paille, ça va rien coûter. Non, oui, la paille, ça coûte pas grand-chose, mais une maison, ça coûte parce qu'il n'y a pas que la paille. Quoi.
C'est un budget, mais pas du tout en autoconstruction. C'est un budget clé en main. Quoi.
Oui, et puis en fait, après, on fera, s'il y a des économies à faire, on les fait après, donc sur le chauffage. Sur...
Alors pour moi, la maison en paille, je trouve ce qu'il y a de super, c'est un confort de vie vraiment appréciable au niveau de la chaleur. C'est des maisons qui, au niveau écologique, sont vraiment intéressantes parce que c'est des filières, on travaille sur des filières courtes. Et puis on stocke au niveau écologique, ce qui est intéressant, c'est comme c'est des matières végétales. On stocke du carbone. La moyenne d'une maison en paille, on stocke quand même 20 tonnes de CO2.
Contrairement à une maison en béton qui,
voilà,
fabriquer du CO2.
Globalement, le bilan est positif.
Ouais, oui, le bilan est positif. Voilà,
c'est-à-dire qu'entre le transport, l'achat de tous les matériaux et leur transformation...
Oui, on est positif au bilan carbone. Voilà.
Ouais.
Stockage du CO2 grâce à la paille, mais aussi au bois.
Tu disais 20 tonnes.
Ouais, c'est ce que j'ai lu là récemment sur la moyenne, sur une maison moyenne, quoi, voilà.
Impressionnant.
Ça, on n'en parle pas souvent.
On passe à côté de toutes les filières de construction, des grosses entreprises, des multinationales.
Ah, les cimentiers.
Cimentiers.
Oui, c'est un petit pied de nez, un bras d'honneur, ce monde-là, quoi.
On dit construction écologique, c'est quoi ? C'est faire un bâtiment isolé par l'extérieur. Mais ce qu'on voit actuellement dans toutes les grandes villes, c'est quoi ? C'est des isolants style laine de roche, en laine de verre par l'extérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la laine de verre, avec 20% d'humidité, ça perd 80% de son pouvoir isolant. La botte de paille, c'est le contraire. 20% d'humidité, il y a 80% de son pouvoir isolant qui est conservé.
Les végétaux, ils régulent l'hygrométrie aussi dans une maison, ils absorbent, ils relâchent.
Ils sont faits pour presque.
Voilà, ouais. La paille, ce que je trouve aussi chouette, c'est qu'on revalorise un matériau qui avait plus moins de place qu'avant, parce que les agriculteurs se retrouvent avec des gros volumes de paille qui sont moins utilisés, parce qu'il y a moins de. On les utilise moins pour les bestiaux qu'avant. Et du coup, ça permet vraiment de revaloriser un matériau et de pouvoir, et que des agriculteurs puissent vendre cette paille pour des choses qui sont intéressantes. Donc moi, je trouve que c'est chouette. Quoi. C'est un chouette matériau, c'est un chouette principe de construction. Quoi. Ça, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que sur un chantier paille, une maison en paille, en tous les cas, n'importe qui peut venir travailler. Tout le monde peut venir donner un coup de main sur des chantiers participatifs. Les enfants peuvent venir. Il n'y a pas de produits toxiques. Donc, quand on fait les enduits à la terre, les gamins peuvent venir aussi patauger, en mettre sur les murs. Ils peuvent venir aider pour la paille. Je veux dire, il n'y a pas de truc non plus très physique. Il y a beaucoup de maisons en paille qui sont construites aussi par des femmes En Angleterre, il y a des associations là, pour aider au logement de gens qui sont dans des situations difficiles, notamment des femmes. Il y a des associations de femmes qui construisent des maisons en paille qu'avec des femmes. Donc, ces trucs très physiques, bourrins, qu'on peut avoir dans d'autres... C'est vraiment ouvert sur... c'est pas du tout sexiste. C'est vraiment ça, c'est aussi un truc vachement chouette, quoi. Et puis, des enfants au troisième âge, tout le monde peut participer, venir s'éclater sur un chantier en paille, quoi.
Tout le monde y trouve son compte.
Ouais, au niveau social, c'est super intéressant. Donc, écologique, social, je trouve ça...
Durable.
C'est durable, c'est...
Anticapitaliste, presque.
Après.
Bon, belle conclusion. Où est-ce qu'on vous joint, alors,
à l'oreille, et puis on de rencontrer des gens, de toute façon.
Et vu le rayonnement international de cette émission, vous allez donc être téléphoné.
Ouais, c'est ça, une prémisse. Nous, on travaille que sur le local, hein, puisque notre bilan carbone est... Il est surveillé de très près par Jeff, donc il fait des calculs. On nous trouve sur le bottin.
Voilà, parce qu'on a vos noms. Et sur le marché.
Sur le marché tous les samedis matin.
Voilà, et puis ils ont sorti un annuaire du bâtiment sur le Divois, je crois. Moi, je suis référencé dedans, je crois. On m'a dit.
Eh bien, Alexandre Rebourg, Jean-François Battaglia, merci pour cette présentation de la Maison en Paille.
Et puis, merci à Radio Diwa.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Pascal, vous avez construit une maison avec Jean-François Battaglia. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la Maison en Paille ?
Le choix de la Maison en Paille, ça n'a pas été un choix délibéré. Lorsqu'on a acheté le terrain, on s'est dit, on va construire une maison dessus et on s'est renseigné auprès d'entrepreneurs de la région. Et les prix tournaient à, on va dire, entre 1500 et 1800 euros le mètre carré. Et pour le coup, nous, on avait plutôt un budget autour de 1100 euros. Il doit y avoir une opportunité, il faut la chercher et la saisir. Je me suis souvenu d'avoir rencontré Jean-François Battaglia il y a 3 ans. Puisque lui avait construit 2 maisons pour lui, et je lui ai demandé si éventuellement il ne ferait pas notre maison dans un statut d'auto-entrepreneur. Et il m'a dit qu'il était justement dans cette démarche. Et voilà comment, en fait, après, on s'est mis d'accord et on a pu s'entendre au niveau des prix et des conditions de réalisation.
Donc au départ, ce n'était pas vraiment un désir écologique premier, c'était purement économique.
Si, au départ, en plaisantant, on disait avec mon épouse, on veut construire une belle cabane sur une commune, comme dit. Il y a des conditions et des règles de construction, donc on ne peut pas construire une cabane. Pour le coup, nous, on était quand même dans la perspective d'essayer de trouver une solution écologique. Mais la question financière, elle touche aussi à des questions de développement durable. Je veux dire, il faut aussi que les constructions écologiques soient abordables. Voilà.
Alors Jean-François, justement, nous explique que ce qui est intéressant pour lui, en tout cas dans la démarche de construction de maisons en paille, c'est que les chantiers puissent être participatifs. Est-ce que vous avez vous-même participé à la construction et ainsi, quels ont été vos moyens humains ?
Moi, j'ai dégagé du temps dans mon emploi du temps professionnel, aussi les week-ends. Ensuite, on a aussi organisé des journées où on a invité des amis, des gens de notre famille à venir travailler sur la maison.
Peut-être oui, des enfants aussi ?
Oui, et des enfants, oui. On a eu 2 jours, entre autres, quand on a posé la paille, où là, il y avait des enfants qui étaient là. Alors bon, ils ont participé avec leurs moyens, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous donner à peu près le temps que ça vous a mis donc, pour construire cette maison ?
Jean-François est intervenu. Ça a duré 12 mois, son intervention. Ensuite, il y a eu, je dirais, 2 mois auparavant, puisqu'il y a eu, au niveau de la réalisation, les fondations, la plantation et la dalle à préparer. Et ensuite, encore en amont, on a travaillé pendant 4-5 mois avec un architecte. Voilà. Depuis la fin décembre 2012, la maison est terminée au niveau de l'intervention de Jean-François. Et là, il nous reste l'électricité, les peintures intérieures, le branchement téléphonique. Voilà.
Un peu plus d'un an pour faire sa maison et avec combien de personnes ?
Alors là, c'est un peu compliqué. Je veux dire, il y a eu des week-ends là où on était à peu près 30 par jour. Puis sinon, des amis aussi sont venus nous aider. Mais là, c'est plus difficile à évaluer, quoi.
Est-ce que vous avez eu des points de blocage, des difficultés ?
La paille, on l'a posée au mois d'avril 2012. Si on n'a pas tant anticipé avant, ce n'est pas vraiment la saison où on coupe la paille. C'est plutôt en été. Ça veut dire qu'en fait, il a fallu l'été d'avant trouver quelqu'un qui a pu fabriquer ses bottes de paille. Et il a fallu trouver aussi un endroit pour les entreposer. Voilà, donc on a trouvé une dame dans le haut d'Iwa qui nous a mis à disposition un petit hangar. Ça, c'est un point de détail. Après, il y a la question aussi liée, mais ça, c'était avec les architectes, l'importance de dimensionner la maison dans son volume et dans l'orientation. Moi, je souhaitais plutôt une maison de plein pied. Et pour des raisons économiques, mais aussi de cohérence au niveau du chauffage, puisqu'on a un poêle à bois qui est central à la maison, une petite maison sur 2 niveaux, c'est plus performant qu'une maison de plein pied, parce que là, dans ce cas-là, il faut plutôt prévoir 2 points de chauffage, si je puis dire. Un autre aspect aussi qui est important, c'est au niveau du couple. C'est pas toujours simple dans la réalisation. Quand on est dans un projet de construction d'un habitat, où la famille va y vivre, on découvre finalement qu'on a des modes de fonctionnement ou de pensée ou des appréhensions dans la construction. Ça veut dire qu'on a des visions qui peuvent être différentes et c'est pas toujours simple de s'entendre. Et quand il y a des tiers, eh bien, des fois, ça permet un peu aussi d'apaiser et de trouver des solutions. Voilà. Après, il y a aussi des questions de montage financier. Il faut être très vigilant quand on n'est pas du domaine. C'est toujours délicat de s'improviser dans le suivi d'un chantier quand on n'a aucune expérience. Puis, une autre chose importante, et ça s'est très bien passé, c'est l'entente, en tout cas, entre l'auto-entrepreneur, voire toutes les entreprises qui interviennent. Et on a été très vigilant de bien formaliser les choses par écrit, en se disant si un jour il venait à y avoir un conflit, eh bien les choses étaient écrites et on avait des solutions écrites. La confiance, la qualité d'écoute et de dialogue est fondamentale. Voilà, je crois qu'après, c'est chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin, travailler sur des compromis, enfin voilà.
Merci de nous donner quelques, tout à fait, surtout quelques pistes pour les prochains qui se lanceront dans cette aventure un peu compliquée qui est de faire une maison. Est-ce que maintenant vous pourriez, en quelques mots, faire une sorte de petit bilan
On a eu l'opportunité d'un bureau d'études qui fait justement des études d'étanchéité à l'air et on a été agréablement surpris de voir que cette maison est pratiquement dans les mêmes performances d'étanchéité à l'air qu'une maison BBC. C'est traduit que, par exemple, cet hiver, on avait mis la maison en eau, hein, les appareils sanitaires étaient déjà en eau. J'ai fait un suivi des températures. Il y a une fois où, sur quelques jours, on était descendu à 5 degrés, alors que dehors, il faisait froid, mais surtout aussi humide avec du vent. Notre maison est située à 10, hein. Et sinon, tout le reste de l'hiver, même quand il faisait moins 5, moins 10 à l'intérieur, le plus bas, ça devait être 8 degrés. Mais surtout, en règle générale, on était à 10 degrés, isolé par la paille au niveau des murs extérieurs, principalement. Et puis, on a mis 45 cm de ouate de cellulose dans les combles. Je pense que le fait que ce soit très, très étanche, eh bien, il n'y a pas de circulation d'air. Et pour le coup, eh bien, la température n'est pas descendue très bas. Une chose très importante, c'est la question de la coordination des différents corps d'État dans la construction d'une maison. Ça veut dire que les finitions ne sont pas très bien faites ou il y a des trous qui sont faits après par d'autres intervenants qui viennent une fois que, par exemple, le fermacelle est posé. Au niveau de l'étanchéité entre les menuiseries et les murs, enfin tout ça font que, parce que c'est la même personne qui réalise les travaux, eh bien, elle est attentive à, justement, ces questions d'étanchéité, ces questions de jointure. Et pour le coup, eh bien, voilà, on a une maison qui est extrêmement bien étanche à l'air et qui, évidemment, va participer aux économies d'énergie.
On imagine que vous seriez disponible pour, pourquoi pas, partager votre expérience avec des personnes qui seraient intéressées. Et pour cela, eh bien...
Tout à fait, moi, je l'ai déjà fait, ouais.
Voilà.
Donc, les gens peuvent voir avec Jeff et puis...
Ils vous retrouveront.
Ils prennent contact avec moi et il n'y a aucun problème.
Comme nous l'avons fait, eh ben, on vous remercie, Pascal. À bientôt.
Merci, au revoir. Capsule.